session de théologie par le père Philippe à Saint-Jeudard le 29 août 1991.
Je réponds rapidement à quelques questions, puis je continue et je laisserai au Père Samuel ce soir. On alterne un peu, vous voyez. Entre nous, on peut le faire. Je laisserai au Père Samuel ce soir de répondre aux questions. Demain matin, il répondra aussi aux questions. Et demain après-midi, en revenant, je ferai deux conférences. Pour que la session soit le moins bouleversée. Du reste, ça revient même, on est interchangeable. On ne dit pas la même chose, mais on cherche la vérité. Tous ceux qui cherchent la vérité sont nos amis, dit saint Thomas. Et Socrate le disait déjà. Cherches-tu la vérité? Si tu cherches la vérité, on peut parler. Si tu ne cherches pas la vérité, on ne peut pas parler. Mais si tu cherches la vérité, on peut parler. Il faut toujours se rappeler ça, c'est très important. Alors évidemment, on commencera à discuter qu'est-ce que c'est que la vérité, ça c'est sûr. Mais au moins on discute sur un sujet sur lequel on peut essayer de s'approcher. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Alors je réponds tout de suite à une toute petite question, à deux petites questions, et puis une un peu plus grande. C'est-à-dire trois. Mais je vais aller vite. En ce qui concerne les anges, je croyais et je crois plutôt qu'il y a de la filia entre les anges. Oui, il y a une filia au niveau surnaturel, pas au niveau naturel. Il n'y a pas d'amour, d'amitié entre les anges au niveau naturel. Au niveau surnaturel, c'est évident. Ce qui fait que la filia, que la communauté angélique est une communauté purement surnaturelle. Pas naturel. Les anges, naturellement, sont des solitaires. Ils sont beaucoup trop intelligents pour vivre en communauté. C'est bien évident. Mettez des grands artistes en communauté, vous verrez ce que c'est. Mettez des génies en communauté, vous verrez ce que c'est. C'est impossible. C'est par le genre qu'on est en communauté. Animal. Alors, il y a la filia, la communauté permet l'amitié. Ah, ça c'est très bien. Ça c'est plus l'aspect générique, c'est l'aspect spécifique et final. Mais quand l'amitié est trop forte entre deux personnes, on dira, vous êtes un corps étranger dans la communauté. C'est comme ça qu'on vous donne un coup dans son soir. C'est-à-dire, sortez de la communauté, vivez à deux. C'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de peine de croire qu'une communauté religieuse peut assumer des gens mariés. Ça pose un très gros problème, parce que c'est un problème très actuel. Il ne faut pas résoudre ça trop vite. Voilà ce que je dirais. Il ne faut pas résoudre ça trop vite. Parce que résoudre ça trop vite, c'est très dangereux. L'amitié, c'est l'amitié. Et la vie commune, c'est la vie commune. Et c'est pas la même chose. La finalité de la vie commune, c'est une bonne entente. Une concordia. C'est pas une filia. La filia, c'est l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, on est deux. Alors, au plan surnaturel, c'est sûr. Au plan surnaturel, mais ça nous dépasse complètement. Une communauté religieuse est basée sur un point de vue surnaturel. C'est le Christ. choisit ses amis. Et de temps en temps, dit-il, il a des drôles de choix. Il a des très drôles de choix. Comment il les choisit? Si on était à sa place, on n'aurait pas fait comme ça du tout. Et c'est vrai, sa communauté, c'est très vrai. Une communauté religieuse, c'est Jésus qui l'a réunie. On n'entre pas dans une communauté religieuse pour retrouver un ami. J'ai connu des gens qui faisaient ça. Moi, j'ai connu un dominicain qui m'a dit, je suis entré dans la vie commune, dans la vie dominicaine pour avoir des amis. Alors je lui dis, j'ai jamais pensé ça, moi. Je suis entré dans la vie dominicaine pour le Christ. Puis je me suis trouvé avec des frères merveilleux. Plus ou moins. Merveilleux quand même, ils étaient tous choisis par le Christ. Donc en les regardant dans la perspective de Jésus, je trouvais que c'était très beau. Mais si j'avais regardé directement, pas commode du tout. Il faut reconnaître ça. On n'entre pas dans la vie religieuse pour la vie commune. Ah non. On entre dans la vie religieuse pour le Christ. Et on n'entre pas dans la vie religieuse pour la réalisation actuelle, mais en fonction de l'Évangile. C'est le Christ. Et on ne choisit pas une communauté ou une autre communauté. Oh, cette communauté était patente. Dans 10 ans, elle pourrait être tout à fait différente et vous ferez des vœux perpétuels. Ça change la physionomie d'une communauté. Il suffit qu'il y ait 3 insectes méchants pour que ça devienne insupportable. C'est comme ça. Et quelquefois, il y a des insectes particuliers. Dans mon noviciat, et je suis entré en 30, dans mon noviciat chez les dominicains, on s'est aperçu au bout de 6 mois qu'il y avait quelqu'un qui était envoyé par la franc-maçonnerie, la plus méchante, pour inspecter comment on vivait. Le père Maître n'avait fait aucune enquête, d'habitude il faisait son enquête, aucune enquête, parce qu'il était recommandé par le père général de Rome. Et au bout de 6 mois, il nous a quittés en disant qui il était. Et qu'il avait, heureusement, il n'y avait pas de scandale, il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème de mœurs, il n'y avait rien. J'ai dit, je suis très étonné, il n'y a rien. Au bout de 6 mois, il est venu pour inspecter. Il l'a dit, tout reste. Parce que, il était curieux. Mais recommandé par le père général de Rome, on l'avait accepté. Donc vous voyez bien ce point de vue-là, les anges sont des solitaires. Il n'y a pas de communauté angélique naturelle. Mais il y a une filia surnaturelle, un amour d'amitié surnaturelle. Deuxième petite question. Il est dit dans la Genèse, après le récit de la chute, qu'Adam connut Ève et enfanta. Cela implique-t-il que Adam ne la connut pas dans l'état de justice originelle? C'est vrai. Cela implique ça. Ils n'ont pas eu d'enfant dans la justice originelle. Ils en auraient eu, c'est sûr. Mais il n'y en a pas eu. L'Écriture nous montre cela. Alors là, théologie du possible, je ne dis plus rien. On se pose la question, si Adam n'avait pas commis de chute, alors qu'est-ce qui serait arrivé? Donc, théologie du possible, comment était-il leur relation dans l'état de justice originelle, je n'en sais rien, parce que rien n'a été dit. On ne sait rien. la nature humaine n'a jamais existé dans un état de nature pure. Elle a existé dans un état de justice originelle, dans un état de chute après le péché, et dans un état de grâce chrétienne. Alors, troisième petite question, très importante, ne pas insister, je le sais, c'était un peu délibérément, parce que je ne voulais pas, et puisque la question est posée, je ne peux pas ne pas la dire. Elle prit son fruit. Elle vit que l'arbre était bon à manger. Il était agréable aux yeux. Beau. La séduction. Je crois que toute tentation implique une séduction. Alors là, je fais un petit appel au plan philosophique entre le bien au plan philosophique, au plan métaphysique. Le bien attire. Cause finale. Le beau séduit. Causalité exemplaire. J'explique un peu. On est attiré par quelqu'un qui est bon. Le Père est bon et nous attire. Quand je serai attaché sur le bois, j'attirerai tout à moi. C'est Jésus qui dit ça dans Saint Jean. Il y a une attraction, parce que sur la croix, Jésus montre sa bonté et nous attire. La beauté séduit. La séduction n'est pas mauvaise. Quelqu'un qui n'a jamais été séduit pendant sa vie, c'est triste. Il y a quelque chose qui lui manque. Je me souviens, premier voyage que j'ai fait en Grèce, je le faisais avec un sculpteur de Genève, que j'aimais beaucoup, un ami. Et alors, on visitait les îles. Tout d'un coup, je reçois un coup de poing dans la poitrine. C'était mon sculpteur qui disait « Regardez cette déesse !» C'était une grecque, avec des yeux grecs. Extraordinaire. Alors évidemment, j'étais séduit. C'est resté une séduction esthétique. Mais j'étais séduit. Et c'est vrai, c'était une beauté. Dans une île, hein, c'est là où on doit les trouver. C'est pas dans la ville d'Athènes où c'est trop mélangé. Et là, on trouve encore. C'est vrai, les îles grecques sont très étonnantes. Ça a peut-être changé beaucoup, moi, ça. C'est déjà vieux, ça. C'était en 50. C'était beau. Une petite ville, je me souviens de cette petite île où il y avait une famille catholique, le tailleur. Tout le reste était orthodoxe. Et il y avait une chapelle catholique avec la fleur de lys. Restait du temps. Mais tout le reste est orthodoxe. Mais alors, des orthodoxes charmants, délicieux, pas du tout en opposition. J'étais en dominicain, donc ils savaient qui j'étais. Je ne me cachais pas. Mais d'une gentillesse, ils me recevaient exactement comme ils ont reçu leur papa. La séduction, c'est le point de vue de la beauté. Une beauté séduit. Séduit l'intelligent. C'est l'intelligence qui est séduite. L'intelligence est liée au cœur. L'intelligence un peu affective, mais surtout artistique, esthétique. Si l'intelligence est liée à l'imaginaire, liée à l'affectivité, c'est complexe, hein, la beauté. L'inspiration, c'est complexe. L'inspiration naît dans l'intelligence. L'art est une forme d'intelligence. Ce n'est pas purement imaginatif. C'est la dégradation de l'art quand c'est purement imaginatif. C'est pas purement instinctif. Non. C'est une forme d'intelligence. L'art a une signification et une représentation. L'icône, c'est une représentation, une signification. C'est une présence. Pas purement imaginative. C'est une intelligence religieuse. Alors, comprenons bien. Le démon sait. Et c'est ça qui l'agace. Adam et Ève sont les dernières créatures spirituelles que Dieu a créées. Ce sont des créatures spirituelles, donc qui ont l'intelligence. Si ces créatures spirituelles ont l'intelligence, et une intelligence liée à la sensibilité, elles peuvent être séduites. Une intelligence purement contemplative n'est pas séduite. C'est l'intelligence liée à la sensibilité, liée à l'imagination. C'est l'intelligence imprégnée de sensibilité et d'imagination qui est séduite. C'est pas la logique, c'est pas la raison, c'est l'intelligence. Elle est séduite par la beauté. Attirée. Et une beauté qui peut attirer. Et une beauté qui peut divertir. Il y a des séductions qui conduisent à l'amour. Il y a des séductions qui conduisent à la distraction. Et quand Baudelaire parle de la beauté de Satan, de Lucifer. Lucifer est resté beau. Il n'est plus bon. Il peut séduire. Les fleurs du mal. Le mal peut séduire. L'intellectuel. Tandis que le mal jamais n'attirera. Impossible. Donc là, il y a tout un aspect qui est très intéressant à voir. Que de fait, la beauté apparaît à l'intérieur de la tentation, comme un élément de la tentation. Pas toujours, mais souvent. Souvent, il y a la phase de séduction. On le sait bien. Et la télévision le sait très bien. On séduit les gens. Et une fois qu'on les séduit, on peut les conduire par le bout du nez. Quelqu'un qui est séduit, on peut très facilement prendre des voies, des déviations. C'est même souvent par la séduction que des gens qui aiment le bien se laissent prendre. Et d'autre part, quelqu'un comme Camus n'a pas hésité de dire que la jeunesse d'aujourd'hui, qui n'est plus du tout attirée par le point de vue de la vertu, par le point de vue du bien, on peut la reprendre par le point de vue du beau. Et je crois. Et je crois qu'il faudrait multiplier les lieux d'éducation pour éduquer les jeunes apprécier le beau et par là conduire vers le bien, le beau, le bien. C'est pour ça qu'une petite œuvre comme Sand peut être très bonne pour les jeunes. Essayez de conduire par la beauté à la sagesse. Parce que les jeunes sont très très pris par ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le point de vue éthique, le point de vue moral, c'est pas comme du tout. On peut encore par l'amour d'amitié. Alors je continue parce que je voudrais, comme tout va très vite, quand on est dans le mal, ça va très lentement. Quand on est dans les tentations, c'est très lent. On s'installe dans le temps. Les tentations sont dans le temps. Alors je voudrais quand même avec vous ponctuer les 11 premiers chapitres de la Genèse, qui ont un caractère tout à fait particulier, préhistorique, mais qui ont un caractère fondamental. ont un caractère, j'allais presque dire, métaphysique. Fondamental au sens métaphysique. Anti-métaphysique au sens que c'est, ça coûte de la finalité. Alors, j'ai essayé de vous expliquer ce matin, rapidement, la déviation de Cain. Alors, je soulignais, parce que ça, je crois que c'est très important pour nous, c'est qu'il y a des tentations qui viennent de l'extérieur, et le démon le sait, par les propagandes, aujourd'hui, les affiches. Ça, c'est vrai, le cinéma, la télévision. On se sert d'images, on se sert de paroles, on se sert de musique. Et on crée un milieu qui vous enlève toute défense. C'est ce qu'on fait d'abord. C'est très très curieux, ça. On vous met dans un climat particulier. Et alors, à partir de là, vous êtes bon pour vous laisser prendre, séduire. Donc, séduction, tentation externe. Le prototype, c'est la première tentation. Et si on avait le temps, on regarderait les trois tentations faites au désert, à Jésus, par le diable. Là, c'est pas le serpent, c'est le diable. C'est le démon. Et les trois tentations, les pères de l'Église ont toujours vu, c'est le démon curieux qui veut savoir si Jésus est fils de Dieu. Il n'a pas la foi. Est-ce que c'est le fils de Dieu? C'est très intriguant pour le démon. Marie a mis au monde un fils d'une manière très particulière. Ça, c'est intriguant. Quel est ce fils? Est-ce que c'est le fils de Dieu? Ou est-ce que c'est qu'un prophète? Est-ce que c'est le libérateur du peuple opprimé? Ou est-ce que c'est le fils de Dieu? Comme il semblerait. Vu ce qu'est sa mère. Vu le milieu de Nazareth. Il devait inspecter le milieu de Nazareth. Circuit querens quem devoret. Il n'y avait personne à dévorer. Il tournait autour. Circuit querens, circuit, on tourne autour. Stratégie d'enveloppement. On tourne autour. Voir qui on peut dévorer. Rien. Intrigué. Tous les hommes naissent dans le péché. Il y a une petite qui est née en dehors du péché, l'Immaculée. Le démon ne la connaît pas. D'habitude, il nous connaît avant que nous nous connaissions. Il connaît tout notre comportement. Il ne connaît pas notre finalité, nos choix, nos options. Mais il connaît notre comportement. Il connaît toute notre affectivité passionnelle. Il connaît notre imagination. C'est son terrain, ça. Et voilà qu'un être échappe, Marie. C'est pour ça que Marie est l'adversaire numéro un. Elle est celle que le démon devrait connaître selon sa mentalité orgueilleuse, puisque l'orgueilleux transforme toutes les permissions en droits. N'oubliez jamais ça. Dieu lui donne une permission et lui considère que cette permission, c'est un droit. Il a un droit sur tous les enfants qui descendent d'Adam et Ève. Et voilà, parmi cette descendance, il y en a une qui lui échappe. Donc, il y en a une qui le met dans un état de frustration. Et le démon, dans un état de frustration, il devient particulièrement furieux. Le démon, c'est un pur intellectuel. Sans aucun amour. Un intellectuel qui a perdu sa finalité. Il ne cherche pas la vérité. Mais il tourne indéfiniment. Je ne dis pas qu'il raisonne, parce qu'il est un ange. Alors il ne raisonne pas. Il prend qui ? Intuition par intuition. Alors il se pose la question, et il pose la question. Si tu es le Fils de Dieu, fais cela. Alors c'est très beau de regarder, c'est ça. C'est... Mais alors vous voyez, pour nous, c'est beaucoup moins intéressant. Ça nous apprend sur le démon, sur sa curiosité, mais rien sur l'homme. Jésus ne livre aucun secret. Il lui donne même un commandement, retire-toi. Tandis qu'Ève livre un secret. Les psychologues sont toujours avides de connaître les secrets. Et au fond, le serpent est très avide de connaître le secret de cette petite communauté parfaite, où il y a une charité fraternelle étonnante, où il y a un amour merveilleux, où il y a une adoration, une contemplation étonnante. Alors d'où ça vient ? Quel secret ? Alors que, vu de l'extérieur, tu ne toucheras pas à l'arbre, à cet arbre. Et on universalise. Donc, ils sont aliénés. Comment, étant aliénés, c'est-à-dire étant ligotés, ils peuvent être encore dans la joie ? C'est impossible. D'où l'interrogation pour savoir le secret. Second type de tentation, une tentation interne. La plupart du temps, la jalousie naît d'une réflexion interne. Le démon n'a pas besoin de beaucoup agir, pas besoin d'être très présent. C'est curieux. Il règne par la jalousie. La jalousie brise la communauté. Il suffit de deux êtres jaloux pour qu'une communauté devienne infernale. Terrible la jalousie. C'est normal de sentir la jalousie. Il ne faut pas croire, parce qu'on sent la jalousie, qu'on pêche. On pêche quand on accepte d'être jaloux. Non, d'asticoter la personne qu'on jalouse, de l'inspecter, d'être là au bon tournant, pour voir tout ce qu'elle fait, et pour pouvoir lui dire, voilà, et pouvoir la calomnier, et la médire, la ridiculiser, passer devant. La jalousie est un fruit de l'orgueil. Et la jalousie provient de l'intérieur, de l'imagination. Toute tentation de jalousie provient de l'imagination. Remarquez, le démon agit sur l'imagination. Mais il ne se fait pas voir. Il se cache. Pour que la tentation soit plus virulente. Parce que si on savait que la jalousie provenait du démon, ce serait beaucoup moins virulent. Mais la tentation est très virulente parce qu'elle est interne et elle provient tout simplement de relations qu'on établit. Ici, c'est net. Caïn s'inquiète d'Abel. Abel a l'air de prier comme un ange. Tout de suite, il a fait son autel en face de Dieu. Il ne s'occupe pas de Dieu. Alors, relation, comment se fait-il que moi, je n'arrive pas à prier ? Ça n'a pas pas, de temps en temps, à l'horizon du matin, on voit des frères qui ont l'air de ils sont en extase, c'est tout juste s'il n'y a pas un phénomène d'élévation. Tout juste. Presque envie de prendre un papier pour voir un peu. Si ça passe, ça va se faire, c'est extraordinaire. Puis le pauvre type, par derrière, toutes les 5 minutes. Ah, comme c'est long, comme c'est long. Alors comment se fait-il que lui, il prie admirablement. Et ce qui est mieux bon, c'est le dernier arrivé. Donc, être noviciat, anti-méthode d'oraison. Ça va plus du tout, on ne sait plus. Avant, merveilleux, des grâces merveilleuses. C'est presque toujours comme ça que ça arrive. Alors on voit très bien les petites jalousies qui poussent. Ou bien on étudie ensemble. Comment se fait-il ? Moi je ne comprends rien du tout à ce qu'il dit. Cette philosophie. Ça me fait comprendre des tas de choses. Alors, une jalousie qui pousse. Oui, on fait des relations. Un jeu de relations. Et on veut être premier. Et on voit quelqu'un d'autre passer devant nous. À l'égard d'un domaine auquel on est très jaloux. Aucun noviste ici n'est jaloux du charcutier qui est sur la grande place. J'ai encore jamais vu ça. Et je ne le verrai jamais. Tandis qu'on est jaloux de son frère d'à côté. Il faut être dans la même boutique, dans la même maison, recevoir le même enseignement pour qu'on soit jaloux à l'égard de tel ou tel. Il faut qu'on ait un peu la même finalité. Qu'on soit des jumeaux, de faux, mais de jumeaux, et qu'on tente vers le même but, alors il y a des jalousies. Si vous êtes en face de quelqu'un qui cherche l'argent à sa manière, et que vous avez fait votre pauvreté, pas de danger d'être jaloux. C'est trop différent. C'est trop autre. Être proche pour être jaloux. C'est pour ça que ça naît à l'intérieur d'une communauté, à l'intérieur d'une famille. La famille implique beaucoup d'affectivité. Et quand il y a beaucoup d'affectivité, les jalousies naissent avec une rapidité. Comment ? Comme les plantes poussent en serre chaude. Ça pousse sans aucune structure. Et c'est extraordinaire de voir combien la jalousie se nourrit de l'imaginaire. Je pourrais vous raconter des tas d'histoires sur la jalousie. Il faut être très attentif sur la jalousie, pour soi. Et pour les autres, il faut pouvoir arriver vraiment à dire « Non, la jalousie, c'est dépassé. » Ce n'est jamais totalement dépassé. Hein. Jamais. Parce qu'il y a les conséquences du péché originel. La concupiscence des yeux. La concupiscence des yeux est source de jalousie. Mais quand même, quand on a lutté pendant un certain temps, on devient expert en non-jalousie. C'est une libération extraordinaire. Il faut arriver à quelqu'un qui veut tendre vers la contemplation pour avoir une vie chrétienne. Mais doit lutter contre la jalousie. C'est effrayant. La jalousie en famille au niveau des héritages. Et la Bible le montre. C'est toujours au niveau des héritages. Pas étonnant parce que là, il y a un nouvel équilibre. Alors à ce moment-là, c'est effrayant. Il y a des comme ça, des périodes particulièrement difficiles à dépasser. Je n'insiste pas plus, mais c'est simplement pour montrer que
La tentation est intérieure. Elle est imaginative. C'est pour ça que quand on est tenté de jalousie, il y a un remède. C'est d'analyser dans la lumière de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, cette jalousie? Et regardons ça objectivement. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que un tel aime plus tel autre. Et du fait même qu'il l'aime, il a moins de temps pour moi. Je suis jaloux. Or, je veux aimer cette personne. Et c'est une très mauvaise tactique de l'aimer vraiment que d'être jaloux de la personne qu'il aime. Alors, une fois qu'on a compris que c'est une très mauvaise tactique, c'est déjà beaucoup. C'est la douche d'eau froide. Et alors, on essaie d'aimer selon notre rythme propre, en comprenant qu'il y a mille façons d'aimer. Et que chacun d'entre nous, notre originalité personnelle vient de notre manière d'aimer. Alors, une fois qu'on a compris ça, il n'y a plus de jalousie. Tant mieux que l'autre aime. Il a bon goût. Il aime celui que j'aime. J'aimerais mieux, évidemment, être la seule personne à l'aimer, parce qu'il serait dans la solitude, et je serais là pour le faire sortir de sa solitude. Mais si je l'aime vraiment, être dans la solitude, c'est pas un bien. S'il est aimé de quelqu'un d'autre, c'est un bien. Et donc, je dois être très heureux qu'un autre l'aime. Alors, concluez. Oui, la jalousie demande d'être analysée, parce qu'elle est imaginative. Tout ce qui est imaginatif en nous demande d'être analysé pour être supprimé. Et là, les analyses psychologiques sont quelquefois excellentes. Je me souviens, c'était à Fribourg, une mère de famille qui m'a raconté ça. Elle avait 6 fils. Et elle aspirait à avoir une petite fille. On comprend. 6 fils. Puis le dernier, il avait déjà 4 ans, il n'y avait plus d'enfants. Elle hésitait beaucoup. Avoir un 7e fils, oh non. Avoir une 7e qui est une fille, oh oui. Comment? Pas commode. Et puis elle en avait parlé à une psychologue à Fribourg. Comment va-t-il recevoir ça? Et le petit Benjamin, le petit dernier, s'il y a une petite sœur. Alors, le psychologue dit, écoutez, il faut peut-être l'habituer. Parlez-lui qu'il aura une petite fille, une petite sœur. Ce sera la dernière. Alors, si vous avez un magazine avec une belle photo d'une petite fille, alors présentez-lui. Ce sera comme ça, tes petites sœurs. Alors, elle trouve un magazine avec une photo magnifique. Je l'ai vu. Des yeux bleus, toute blonde, merveilleuse. Elle dit voilà, alors, dites là à côté, tu présentes cette photo. Dis, tu vas peut-être avoir bientôt une petite sœur. Elle sera comme ça. Alors, affolement, exactement ce qu'il dit, sa figure est devenue triste, alors qu'il était joyeux avant. Il est devenu triste. La jalousie rend triste. Enlève la joie. Cultivons la joie, on ne sera pas jaloux. Alors, elle a dit, qu'est-ce que je vais faire? Elle dit rien. Alors, qu'est-ce que tu vas lui faire à ta petite sœur? Ça va? Dans le tiroir, à droite, il savait qu'il y avait une paire de ciseaux. Il arrive. Il ouvre la paire de ciseaux, puis il l'enfonce dans les yeux. Mais la pauvre mère, c'est authentique, c'est pas une chose racontée, ça. C'est elle qui m'a dit ça textuellement. Alors elle est affolée. C'est à ce moment-là qu'elle est venue me voir. Après le psychologue. Alors je lui ai dit, écoutez, priez ensemble pour la petite sœur qui doit venir. Je crois que s'il commence à prier pour sa petite sœur, il va l'aimer. Alors c'est ce qu'elle a commencé. Elle s'est mise à prier pour la petite sœur qui allait venir. Et là, il priait. À 4 ans, on prie bien. Normalement. Alors quand la petite sœur est venue, elle n'avait pas des yeux aussi bleus, elle n'était pas aussi blonde, grâce à Dieu, elle était assez différente. Et tout s'est très bien passé. Parce qu'il avait prié pour elle. J'en suis sûr. Comment lutter contre la jalousie, si ce n'est par la prière? Nous, chrétiens, c'est très enraciné, la jalousie. Il n'y a rien d'original. Tous les êtres spirituels, c'est la seule consolation qu'on peut leur donner, tous les êtres spirituels connaissent les tentations de jalousie vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime. Les jalousies autour du pape, je ne vais pas vous en raconter, mais j'en connais. Terrible, terrible. Plus on est autour de quelqu'un de grand, plus les jalousies... C'est touchant. Ce n'est pas drôle pour le savoir. Les prélats de sa sainte téléphonaient autour du pape. Même s'ils sont âgés, ils peuvent être jaloux. Les jalousies de vieillards, c'est pire que les jalousies, parce qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Alors ils sont terriblement jaloux. Il faut aller vite. Et c'est vrai, ça met dans tout. C'est terriblement humain, la jalousie. Humain dans le sens, vous voyez, conséquence du péché originel. Alors il faut en sourire. Si on se sent jaloux, ça passera. Mais prions. C'est le grand remède. Et analysons. Vous voyez, la prière, le côté affectif, le côté divin, l'analyse, le côté humain. Pour montrer que c'est idiot. C'est pas digne d'un être humain. D'être jaloux. C'est petit. C'est toujours petit d'être jaloux. Alors qu'on aime d'être magnanime. On aime d'être grand. On aime de faire plaisir à des êtres qu'on aime. Et dès qu'on est jaloux, on ne peut plus. Troisième péché. Alors là, c'est un péché qui s'universalise. Chapitre 6. Yahvé vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que pensées mauvaises à longueur de journée. Donc, tentation interne de jalousie qui aboutit à ne former que des pensées mauvaises à longueur de journée. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'affligea dans son cœur. Ça va loin, ça. Dieu qui regrette, c'est un anthropomorphisme. Dieu qui regrette d'avoir créé l'homme et la femme. Le démon est arrivé à sa fin. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'affligea dans son cœur. Yahvé dit, je vais effacer de dessus la surface du sol les hommes que j'ai créés. Depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de leur fait. C'est très intéressant, là, vous voyez, de voir la montée et la descente. Dans le fameux premier récit, on voit la création de tous les animaux qui montent vers l'homme. Alors c'est dans ce sens qu'on dit ce récit est conforme à l'évolution, au terme. Ici, la destruction de l'homme implique la destruction de tous les animaux. C'est intéressant comme les deux manières de voir le lien entre l'homme et les animaux. La vie biologique. Il y a une certaine unité dans la vie biologique. Ça ne peut pas nier. Donc, on voit comment Dieu veut punir toute l'humanité par le déluge. Oui, ce n'est plus Dieu qui tente. C'est Dieu qui punit les hommes. Et si on est attentif à la tentation de la jalousie, on voit comment la jalousie peut arriver à faire que la communauté humaine devienne insupportable. On ne respecte plus l'image de Dieu. Il n'y a plus aucune philanthropie. Il n'y a qu'une opposition. D'où le déluge. Et cependant, Dieu aime l'homme et tout est repris avec nous.